Bonjour à tous. Noël sous Covid. À une semaine des célébrations du réveillon et de Noël, les restrictions se multiplient en France et à travers le monde. En Europe, la déferlante Omicron arrive par le nord. Confinement aux Pays-Bas, semi-confinement au Danemark, procédure d'alerte à Londres. Nous serons dans un instant à Bruxelles avec Angélique Bouin. En France, la campagne présidentielle également sous Covid. Les candidats mettent en place des stratégies barrières pour leurs meetings et leurs campagnes. En cette période de vacances, les Français ont besoin de souffler et de prendre quelques jours de repos. Au ski, les demandes de réservation sont en hausse. Invité de ce journal, Jean-Marc Silva, directeur général de France Montagne. Dans ce journal également, une marche blanche aujourd'hui en hommage à Delphine Jubilar. Un nouveau coup dur pour le Premier ministre britannique, Boris Johnson, son ministre du Brexit démissionne. Et puis c'est un jour de finale pour le handball. Les Françaises affrontent cet après-midi les Norvégiennes. Le temps avec un dégradé de grisaille au soleil du nord au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
L'Europe, donc, face à la lame de fond Omicron, on pensait être proche du pic de la cinquième vague, notamment en France, mais le nouveau variant progresse vitesse grand V et il pourrait bien devenir majoritaire en France dans les 15 jours, selon le ministre de la Santé hier sur France Inter, Olivier Véran. La déferlante Omicron arrive par le nord et l'est de l'Europe et dans certains pays, comme au Royaume-Uni, on parle d'un raz-de-marée des contaminations. En direct de Bruxelles, on retrouve notre correspondante. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour à tous.
Et puis, il y a les Pays-Bas, Angélique, où le mot que l'on pensait ne plus entendre, confinement, a non seulement été prononcé, mais appliqué à partir d'aujourd'hui.
Oui, tous les magasins jugés non essentiels, les bars, restaurants, cinémas, musées ont fermé leurs portes et les Néerlandais ne peuvent désormais recevoir chez eux que deux personnes en plus de leur foyer, sauf les jours et soirs de Noël et Nouvel An, où ils pourront en inviter quatre. Les écoles ont fermé leurs portes avec une semaine d'avance, vendredi, comme en Belgique d'ailleurs, tandis qu'au Danemark, on passe à partir d'aujourd'hui en semi-confinement, avec la fermeture des lieux culturels et sportifs et une stricte limitation du nombre de clients dans les bars et restaurants, qui devront fermer leurs portes à 23h. Retour également des jauges dans les magasins et lieux de culte. Et puis, seuls les voyageurs assis sont acceptés dans les transports en commun. Dans ces pays, on dit vouloir éviter que les hôpitaux ne soient à la fois débordés par les cas graves, mais aussi désertés par des soignants qui, même légèrement malades, devront s'isoler chez eux.
Et en Europe aussi, Angélique, on assiste au retour des restrictions pour voyager.
Oui, en plus des restrictions imposées aux Britanniques, on voit des mesures se mettre en place aux frontières internes de l'Union. L'Allemagne va imposer une quarantaine aux non-vaccinés qui arrivent de France ou du Danemark, pays jugé désormais à haut risque. L'Italie, le Portugal, l'Irlande et la Grèce imposent de leur côté des tests PCR, y compris aux vaccinés. Enfin, partout, ces mesures s'accompagnent de nouvelles pressions à l'encontre des non-vaccinés. L'Autriche, l'Allemagne, la Grèce sont sur le chemin de la vaccination obligatoire.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles, merci. En France, on l'a bien compris, le virus se moque de l'agenda politique et de la campagne présidentielle et la flambée des cas de contamination va percuter et avoir sans doute une influence considérable sur la campagne en raison des restrictions. Meeting très complexe à organiser, porte-à-porte impossible et les candidats et leurs équipes mettent au point des stratégies barrières pour la campagne et beaucoup considèrent que cela pourrait aider la réélection d'Emmanuel Macron. Maxence Lambrecq.
On ne change pas un capitaine en pleine tempête. Ça pourrait vite devenir le slogan du parti présidentiel et cela inquiète tous les candidats. Un Emmanuel Macron au-dessus de la mêlée, une campagne empêchée et au final une abstention record. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen seraient les premiers à en souffrir. On a besoin du vote populaire, répète leur lieutenant, et d'être au contact. Marine Le Pen a déjà prévu des tas de petits meetings dans des espaces semi-ouverts, mais elle veut lancer sa campagne à Reims mi-janvier devant au moins 3000 personnes.
J'ai changé. Parce que les épreuves de la vie m'ont changé.
Sarkozy, Hollande, Macron, ce cérémonial les a installés, crédibilisés.
Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Parce que c'est notre projet !
Éric Zemmour est soulagé de l'avoir déjà fait il y a 15 jours à Villepinte. Mi-janvier, Jean-Luc Mélenchon veut frapper fort à Nantes, toujours sans passe sanitaire, ce que le Conseil constitutionnel autorise. L'équipe d'Anne Hidalgo s'équipe en autotest pour le prochain raout. À La République En Marche, on a déjà analysé dans le détail la campagne sous Covid de Joe Biden, à coup de visioconférence depuis son salon, ce qui offre une forme de proximité. Tous les QG ont déjà investi plus qu'en 2017 dans les outils numériques.
Maxence Lambrecq, et à 6 jours de Noël encore sous Covid et dans un contexte de de restrictions. Les Français avouent avoir besoin de souffler pendant quelques jours de vacances et pour ceux qui le peuvent, aller au ski. Et c'est la bonne nouvelle, au ski en particulier, mais aussi ailleurs. Les vacances d'hiver se présentent bien. Invité de ce journal, Jean-Marc Silva, directeur général de l'association France Montagne. Bonjour Jean-Marc Silva.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Et en montagne, les stations enregistrent pour ces fêtes une hausse des réservations sensibles.
Oui, alors effectivement, le très beau temps avec les très belles chutes de neige sur l'ensemble des massifs français font effectivement une embellie des réservations. Les vacances démarrent bien, alors avec des problématiques bien sûr de clientèle internationale, notamment les Anglais. Mais sur la clientèle française, c'est vrai qu'il y a un réel regain d'intérêt, et puis c'est vrai que des clientèles qui n'ont pas pu skier depuis un an et demi maintenant, on sent vraiment une très belle appétence. Là, je vous parle en direct des Arcs depuis un restaurant d'altitude, un sanglier qui fume bien nommé, et oui. On voit des gens heureux, satisfaits d'être au ski, au sport d'hiver. Les enfants sont présents. Voilà, on est content de pouvoir leur offrir nos grands espaces, enfin, à toute cette clientèle.
Alors Jean-Marc Silva, puisque vous êtes au restaurant aux Arcs en altitude, les gestes barrières sont bien respectés, on rappelle, passe sanitaire et masque obligatoire autour de vous, tout le monde a présenté son passe sanitaire.
Oui, j'en suis le témoin. Ce matin, on m'a contrôlé mon passe sanitaire, je mets mon masque comme toutes les personnes qui se déplacent dans le restaurant. Et au départ des remontées mécaniques, c'est vrai que dans les files d'attente, on prévient bien de mettre à toute la clientèle de mettre le masque ou le tour de cou. Ça, c'est aussi un conseil à donner à vos auditeurs. Et puis d'avoir, bien sûr, le pass sanitaire avec soi, alors soit sur son téléphone. Et la recommandation, ça serait aussi de l'avoir en double avec un document imprimé. Parce que si jamais, avec le froid, l'altitude, votre portable devait perdre de la batterie, vous avez toujours votre passe sanitaire en papier.
Alors pour le réveillon, je parle du réveillon du Nouvel An qui inquiète beaucoup plus le gouvernement et les spécialistes, et il est vraiment source d'inquiétude avec les festivités. On a vu à Paris notamment et dans plusieurs villes, les feux d'artifice sont annulés, les festivités aussi. Comment ça va se passer dans les stations de ski? Est-ce que ça va être un rayon sage avec beaucoup de festivités annulées?
Écoutez, nous sommes ravis d'accueillir nos clients et on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, en respectant les gestes barrières qu'on a proposés, que le gouvernement nous demande. Il y aura la mise en place de tout ce qu'il faut faire pour que ce soit respecté. Je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse proposer des grands espaces à la clientèle, du ski, et ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Et puis les contraintes, on va les absorber, je pense que la clientèle est bienveillante, accepte bien volontiers quelques contraintes pour pouvoir profiter effectivement de cet air pur, de cette neige. Donc en montagne, on a l'habitude de s'organiser pour quelles que soient les conditions. Bon, là ce coup-ci, ce sont des conditions sanitaires. Donc on s'adapte et la clientèle joue le jeu.
Alors la clientèle, vous en parliez d'ailleurs, Monsieur Silva, c'est l'absence des touristes britanniques. Ils se sont appropriés les montagnes françaises et les Anglais et ils ne seront pas là cette année. Ça représente combien de pourcentage de la clientèle étrangère qui vient dans les stations de ski françaises?
Alors il faut savoir qu'en France, notre clientèle internationale représente 26% de la clientèle. Et la clientèle britannique du Royaume-Uni est la première clientèle internationale avec 9% sur l'ensemble du territoire français. Alors, je rappelle qu'il y a aussi 320 domaines skiables, stations en France. Alors, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne puisque certaines stations sont très franco-françaises et d'autres très internationales. Donc, ça va être vraiment du cas par cas entre des stations qui ont une clientèle très importante au niveau de la clientèle britannique, et puis d'autres qui en ont peu. Donc globalement, c'est 35% de la clientèle internationale. C'est la montagne française et la montagne des Anglais. Les Anglais viennent d'abord skier en France. Ce sont des grands skieurs. Ils adorent nos domaines skiables et l'art de vivre à la française. Donc en priorité, ils viennent chez nous. Malheureusement, ils vont pas pouvoir venir pour ce début de saison, mais la saison est longue, on skie en France jusqu'au 2 mai, On espère bien que ceci va s'améliorer pour la deuxième partie de saison.
Merci beaucoup Jean-Marc Silva, je retiens qu'il fait beau et qu'il y a de la neige en ce moment, notamment aux Arcs. Merci Jean-Marc Silva, directeur général de l'association France Montagne. En bref, l'avocat de Claude Guéant affirme que son client a remboursé la totalité de sa dette au Trésor public. Maître Boucher-Zelgosi dit avoir fait une demande d'aménagement de peine. Claude Guéant a été incarcéré lundi dernier à la prison de la Santé en application d'une condamnation de 2017 dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Une marche blanche cet après-midi en hommage à Delphine Jubilard. Les proches de cette infirmière de 33 ans, disparue il y a un an, vont se retrouver à Cagnac-les-Mines dans le Tarn pour que personne ne l'oublie. Un rassemblement nommé Justice et Vérité dans une affaire qui a connu de nombreux rebondissements ces derniers jours. Valentin Dunat.
Toute la semaine, ses amis et sa famille ont appelé au plus large rassemblement possible. Ils attendent plusieurs centaines de personnes. Des affiches ont été collées sur les voitures, mais également devant certaines vitrines de magasins à Albi. Venez nous soutenir dans notre combat pour obtenir la vérité. Il faut que ça circule, il ne faut pas lâcher. Voici le message envoyé pour appeler les habitants à se réunir aujourd'hui. Un rassemblement s'était déjà tenu sur ce site en mai dernier. Le mari de Delphine, Cédric Jubilard, y avait d'ailleurs participé. Depuis, il a été interpellé et mise en examen pour le meurtre de sa femme. Par ailleurs, cette semaine, cette affaire a connu un nouveau rebondissement. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été placée en garde à vue. Elle est ressortie libre. Aucune charge n'a été retenue contre elle. Le départ du cortège sera donné dans une heure au lac de Cagnac-les-Mines que cette mère de famille avait l'habitude de fréquenter avec ses enfants.
À l'étranger, au Royaume-Uni, un départ qui était tout sauf attendu. David Frost, le ministre du Brexit, a claqué la porte hier soir du gouvernement britannique. Il quitte son poste en raison de sa désillusion vis-à-vis de la ligne politique suivie par Boris Johnson. Énième coup dur pour le Premier ministre britannique en pleine débâcle. Boris Johnson est secoué par une série d'affaires allant des fêtes organisées en plein confinement à son propre camp qui le lâche dans ses mesures pour lutter contre l'épidémie. Jusqu'à plus récemment, une défaite cuisante de sa formation lors de législatives partielles. Boris Johnson est aujourd'hui un Premier ministre très affaibli et la démission de David Frost. Avec cette démission, la crise s'aggrave. Sophie Louswarne, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni avec Valérie Crova.
C'était un pilier du gouvernement britannique qui avait remplacé Michael Gove au mois de février 2021. Il manifeste aujourd'hui son opposition à la stratégie de lutte contre la Covid. Il manifeste aussi son opposition à la hausse des impôts qui rend le Royaume-Uni moins attractif et à la politique environnementale de pollution zéro. C'est une fin d'année difficile pour le Premier ministre qui connaît une crise d'autorité, une crise de légitimité, une crise de confiance. Mais il reste à Boris Johnson quelques mois pour remonter la pente et il mise sur sa politique de lutte contre le variant Omicron et l'administration de la troisième dose de rappel du vaccin d'ici à la fin de l'année 2021 pour endiguer la hausse des cas de Covid qui a atteint 98 000 hier. Si de nouvelles mesures de restriction étaient adoptées comme un confinement par exemple, comme l'a dit le ministre de la Santé ce matin, le Parlement serait rappelé pendant les fêtes de Noël.
Sophie Lussoir, spécialiste de l'histoire politique et économique du Royaume-Uni. Les pays musulmans au chevet de l'Afghanistan, cette réunion des pays de l'Organisation de coopération islamique est de la première grande conférence sur l'Afghanistan depuis la chute de l'ancien gouvernement et la prise de pouvoir par les talibans. Ce sommet à Islamabad au Pakistan, auquel participent également les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, a pour objectif délicat de venir en aide à l'économie afghane sans pour autant soutenir le régime taliban. À Hong Kong, on vote aujourd'hui pour renouveler le Parlement du territoire, le Conseil législatif, un scrutin verrouillé par Pékin, puisque pour la première fois, ne sont autorisés à se présenter que des candidats patriotes, c'est-à-dire agréés par le Parti communiste chinois. 90 sièges et sur 150 candidats en lice, seuls 3 se déclarent d'obédience pro-démocratique. Et malgré une campagne pour inciter les gens à voter, les Hongkongais risquent fort de bouder le scrutin. Le gouvernement a également annoncé que tous les transports étaient gratuits aujourd'hui, mais l'initiative n'a pas forcément convaincu. La participation à la mi-journée s'élève à 19%. Sur place à Hong Kong, Florence Dechangy.
Il y a foule dans le métro ce dimanche sur la ligne bleue qui parcourt l'île de Hong Kong d'est en ouest On se croirait en semaine aux heures de pointe. Mais les Hongkongais qui ont voulu profiter des transports gratuits n'ont pas forcément l'intention d'aller voter, comme ces trois jeunes qui vont au restaurant.
On n'a pas l'intention d'aller voter.
Nous utilisons le métro juste pour nous amuser, pour le fun.
En fait, étant donné que l'opposition pro-démocratie traditionnelle n'existe plus, les Hongkongais risquent fort de bouder ce scrutin, comme l'explique le professeur de sciences sociales à l'Université de Hong Kong, John Burns.
Les sondages montrent qu'une majorité de la population, 58%, considère ces élections comme injustes. Pourquoi injustes ? Parce que tous les principaux candidats d'opposition sont en prison. Ils sont poursuivis, ils ont fui, ils ont été réduits au silence.
Une loi a même été passée pour interdire à quiconque de suggérer l'abstention ou le vote blanc, un délit désormais passible de 3 ans de prison, pour lequel 10 personnes ont déjà été arrêtées à Hong Kong. 7 mandats d'arrêt internationaux ont également été lancés contre des militants en exil qui ont eux aussi appelé au boycott. Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
Et on en vient à notre jour de finale au championnat du monde de handball en Espagne. Les Françaises pourraient bien réaliser un incroyable doublé après leur titre de championne olympique cet été. Coup d'envoi à 17h30 face à la redoutable Norvège. En direct de Granollers en Espagne, on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour.
Alors le défi est de taille, France-Norvège, mais on parle d'une finale entre amis.
Oui, car les deux équipes se connaissent par cœur et s'apprécient sans que ce soit exagéré, hein, malgré une énorme rivalité sur le terrain. La France a battu la Norvège en finale du Mondial 2017. La Norvège a pris sa revanche l'an dernier en finale de l'Euro. Mais les deux fédérations organisent des matchs amicaux, partagent d'ailleurs le même hôtel ici à Barcelone. Et puis au début des années 2000, le sélectionneur Olivier Crumbles s'était même beaucoup inspiré des Norvégiennes, championnes d'Europe et du monde à la fin des années 90. Et puis il y a de nombreuses interactions entre les joueuses, plusieurs Françaises et Norvégiennes se côtoient ou se sont côtoyées dans les meilleurs clubs d'Europe.
Alors Jean-Pierre, au début de ces championnats du monde, les Françaises n'y croyaient pas vraiment elles-mêmes.
Alors en arrivant ici, on ne savait pas où on allait, ce sont les mots de la capitaine tricolore Coralie Lasource. C'est vrai, les Françaises, dont certaines ont accusé le coup, en parlant même de déprime après leur titre olympique à Tokyo, ont été très sollicitées en équipe nationale et surtout en club avec de gros matchs de Ligue des Champions. Au fil de ce mondial, elles sont tout de même montées en puissance et elles ont tout gagné, y compris lorsqu'il a fallu puiser dans les ressources physiques et morales en demi-finale contre le Danemark.
Alors coup d'envoi à 17h30, on l'a dit, mais pour gagner ce soir, il va vraiment falloir faire mieux en attaque.
Oui, améliorer encore un peu plus ce secteur, même si ça va mieux depuis 3 matchs. Le taux de réussite des Françaises avoisine les 60%, alors qu'il dépasse les 70% pour les Norvégiennes au tir. En 8 matchs, la Norvège a également marqué 73 buts de plus que les Françaises et elles ont... L'équipe norvégienne a également moins échoué sur les gardiens adverses. La France peut quand même faire mieux aussi sur les tirs de loin. Et puis, comme la défense française est le point fort des Bleus, ce sera tout de même un atout de choix pour les tricolores. Seul le Danemark a fait mieux parmi les équipes du dernier carré en termes de défense. Donc, les tricolores, tout de même solides, présentent cet argument pour écrire une nouvelle page d'histoire.
Jean-Pierre Blimeau, merci en direct de Granollers au championnat du monde de handball. Une vente aux enchères peu commune en Argentine, une vente aux enchères mondiale pour éponger les dettes de Diego Maradona un an après sa mort. Ces enchères en ligne auront lieu cet après-midi. 87 biens en tout sont proposés, maillots, crampons, 2 BMW dont l'une avec la signature de Maradona gravée sur le pare-brise au prix de 140 000 euros. Il y aura aussi une lettre de Fidel Castro. La maison familiale à Buenos Aires est également à vendre. Il y a tout pour que l'événement, qui devrait ressembler plus à un spectacle qu'à une vente aux enchères, démarre à partir de 14h, heure de Paris. Sur place à Buenos Aires, Caroline Vic.
Impossible d'accéder aux biens de Maradona avant la vente, à l'exception du plus précieux, la maison achetée par Diego à ses parents en 1981, après son transfert à Boca Juniors, une maison de 700 m² avec piscine dans un quartier résidentiel de Buenos Aires, que nous fait visiter le commissaire-priseur, Adrián Mercado.
Bienvenue, venez, je vais vous montrer sa chambre. Ici, il y a un bout d'histoire. En 86, quand on a été champion du monde, Diego est monté sur deux balcons, celui du palais présidentiel et celui-ci. Le soir, les gens sont venus le saluer et il a pu voir cette vue panoramique magnifique de la rue pleine de supporters.
Les bien vendus vont d'un chapeau de paille à 45 euros jusqu'à cette maison à 800 000 euros. Une vente aux enchères organisée après un appel d'offres international qu'a donc remporté Adrián Mercado.
La première réaction a été une énorme émotion parce que je suis un fanatique de Diego. Et ensuite, j'ai ressenti une grande responsabilité de pouvoir faire quelque chose pour sa famille, ses enfants et pour lui.
2 heures de vente retransmises dans le monde entier sur une plateforme pouvant supporter la connexion de 5 millions de personnes. L'argent sera déposé sur un compte judiciaire pour être ensuite redistribué aux héritiers de Diego Maradona. À Buenos Aires, Caroline Vic pour France Inter.